Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion, un très grand bonjour à toutes et à tous en ce samedi 18 novembre, un peu morose, tout à fait automnal. En tout cas, nous vous accompagnons jusqu'à midi pour Wagon Livre et nous vous proposons aujourd'hui la deuxième table ronde des auteurs, enregistrée lors de la fête du livre de Blanzy. C'était le 15 octobre dernier, festival du livre de Blanzy qui a lieu tous les deux ans et qui cette année s'est tenu sur deux journées, les samedis 14 octobre et le dimanche 15 octobre. Le samedi était consacré à des animations plutôt orientées vers le jeune public et puis le dimanche 15 octobre avait lieu le Salon du Livre réunissant à Blanzy une centaine d'écrivains. C'est un événement culturel qui est organisé par les bénévoles de l'association Mine de Lire que préside Yves Jacob, que nous saluons avec beaucoup de sympathie. Et nous remercions tous les bénévoles pour leur accueil chaleureux. Et une mention particulière pour Christophe Royer, lui-même auteur, qui nous a particulièrement aidé pour l'installation technique des micros et permettre l'enregistrement de la table ronde que vous allez entendre aujourd'hui. Parmi les trois auteurs participant à cet enregistrement, notons Isabelle Rousseau pour un polar intitulé « Sempiternum » paru aux éditions du Bélier Rouge. Isabelle Rousseau, qui est une passionnée de théâtre et qui, depuis plusieurs années, s'adonne avec beaucoup de bonheur, de plaisir et de talent à l'écriture de polar. Nous en parlerons avec elle au cours de cette table ronde que vous allez découvrir d'ici quelques minutes. Au micro, vous entendrez également Gérard Fesch, qui a écrit il y a quelques années un livre paru aux éditions Ballant qui a pour titre « Fils d'assassin, fils de saint ». Point d'interrogation. Gérard Fesch, qui est un enfant de l'assistance publique et qui découvre à l'âge de 40 ans qu'il est le fils d'un homme, Jacques Fesch, qui a tué un policier en 1954. Homme d'ailleurs qui sera condamné aux assises et guillotiné en 1957. Nous ouvrons cette table ronde du Festival du Livre de Blanzy avec un auteur jeunesse. Vous allez découvrir Lucille Baratelli, qui a fait paraître deux romans parus chez Castor Romans, La Petite Meute, Mystère à l'Arctique. Découvrons cette auteure pleine de jeunesse, de fantaisie et de talent également. Il s'agit de Lucille Baratelli, enregistrée lors de la table ronde du Salon du Livre de Blanzy. C'était le 15 octobre dernier.
Moi, déjà, j'ai 30 ans.
Elle a 30 ans et je vous prie de l'applaudir.
Ah oui.
J'ai 30 ans, j'habite à Étang-sur-Arroux depuis 2 ans. Avant ça, j'ai été un petit peu sur Paris parce que je travaillais dans l'édition. Et encore avant ça, j'ai passé 6 ans de ma vie dans un van, à sillonner un peu les routes de France. Voilà, dans le cadre notamment de la promotion d'un magazine jeunesse.
Bien.
Que je faisais.
Et alors comment avez-vous commencé à écrire ? D'abord, on écrit pour soi ?
Alors moi, j'ai tout de suite écrit pour les autres.
Pour les autres.
En fait, j'ai commencé à écrire, j'avais une douzaine d'années, et j'écrivais sur Internet des fanfictions d'Harry Potter. Donc je reprenais les personnages d'Harry Potter et je leur faisais vivre d'autres aventures, parce que visiblement, leur autrice n'était pas capable de savoir quel couple allait aller bien ensemble. Elle ne les avait pas fait, donc moi, je les ai fait en ligne, sur toute une communauté. Et après, à partir de là, à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais essayer de faire avec mes propres personnages. Et j'ai écrit, oui, pendant plusieurs années, plein d'histoires, et surtout pour les adolescents. Et en fait, en 2019, je travaillais dans une maison d'édition qui était donc les éditions Nathan Jeunesse. Et j'ai assisté à une réunion où ils parlaient un petit peu du genre de texte qu'ils auraient bien aimé, de ce qui... Voilà, et puis moi, je me suis dit, bon... Ouais, c'est vrai, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'ils parlaient beaucoup d'histoires avec des chevaux. Voilà, tout le monde voulait des histoires de chevaux.
Ah. Et vous avez décidé...
Moi, j'ai dit, le problème des chevaux, c'est qu'il n'y a que les filles qui les lisent. Les garçons, chaque fois que ça parle de chevaux, c'est connoté fille, ils veulent pas lire. Et moi, j'avais envie de vraiment faire une histoire qui soit mixte, avec les garçons aussi bien que les filles puissent s'identifier au personnage.
Par conséquent, les chiens de traîneau, c'est mixte.
Ouais.
C'est pas trop genré, en fait.
Non, c'est ça. Enfin, vraiment, j'ai autant de lecteurs féminins que masculins. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est cette idée de me dire, ok, très bien, prenons un thème qui n'a pas été abordé de cette manière-là, parce que les chiens de traîneau, on en parlait uniquement à travers les aventures de Jack London.
Ce qui n'est pas rien.
C'est sûr. C'est même toute mon enfance.
Et qu'avez-vous lu, justement? Quels ont été... Alors, Gérard Fesch, votre voisin, je sais qu'il a l'amour du Petit Prince de Saint-Exupéry et un roman de Jean Giono également, Le Chant du Monde. Hein. Et vous, Lucille Baratelli, quels ont été, dans votre jeunesse, adolescent, les oui-oui d'Enid Blyton, Le Club des Cinq ou des choses plus...
Les Grands Galops, les livres pour filles de chevaux. Après, moi, très très tôt, je suis tombée dans Harry Potter. Ça a vraiment été une révélation pour moi. Et après, enfant, j'avais une énorme passion pour tout ce qui était livre sur la Seconde Guerre mondiale. Aucun rapport, du coup, avec... voilà. Donc, la Seconde Guerre mondiale, l'Empire romain et la mythologie.
Alors, justement, avec la petite meute, donc, on trouve des adolescentes et des adolescents qui sont des mushers. C'est-à-dire des conducteurs de traîneaux. Alors, il y a la luge et le traîneau. Enfin, il y a différents types de traîneaux.
Il y a plusieurs types de traîneaux. Il y a les traîneaux faits pour la randonnée, les traîneaux faits pour la vitesse, les traîneaux faits au quotidien. Ça dépend du nombre de chiens qu'on attelle. Ça dépend d'énormément de choses que j'ai complètement découvert en travaillant sur le livre, puisque avant ça, je n'étais jamais montée sur un traîneau.
Alors ça, c'est quand même assez audacieux. De se lancer sur des histoires d'adolescents dans l'univers neigeux des chiens de traîneau sans connaître pratiquement tout cela.
Non, du coup j'ai dévoré tous les livres de Nicolas Vanier, j'ai regardé tous les films qui parlaient de chiens de traîneau, j'ai fait des recherches, j'ai interviewé des mushers pour faire quelque chose du plus précis possible, parce que je considère que c'est pas parce qu'on écrit pour les enfants que ça doit pas être documenté pour autant. Voilà, donc à vous de me dire si à la lecture ça se sent que j'y connais rien du tout ou pas. Mais
non, justement, on a le sentiment que vous maîtrisez fort bien les pratiques, les méthodes. On est renseigné. Il y a quelques petites notes de temps en temps pour les néophytes qui auraient besoin d'explications concernant un certain nombre de termes. Et finalement, ces adolescents sont à l'Arctique. Alors, l'Arctique, c'est un club école qui enseigne la pratique de la conduite des chiens de traîneau.
Exactement, oui, c'est une école dans laquelle eux ils vont, enfin c'est une école. C'est vraiment c'est l'équivalent d'un centre équestre, mais pour les chiens. Il y a vraiment ce côté, j'avais vraiment envie de faire ce côté un peu club, où ils se retrouvent deux fois par semaine et ils pratiquent vraiment ce qu'ils aiment. Et à l'Arctique, on ne se contente pas de monter sur un traîneau. Il faut aussi préparer les chiens, il faut aussi les nourrir, il faut aussi s'en occuper.
Il faut les aimer, il faut leur mettre donc des petits chaussons de protection hein, quand ils courent, en fait.
Parce que les
coussinets doivent être protégés et ménagés, très important. Et puis, alors Anna, dans Mystère à l'Arctique, Anna, la jeune fille, vient effectivement retrouver ses camarades pour se perfectionner dans l'art du maniement et de la conduite du traîneau. Et elle fait croire à sa maman qu'elle pratique la gymnastique alors qu'elle vient effectivement conduire des traîneaux. Ça veut dire que... Et pourquoi cette petite fille est-elle obligée de mentir à sa maman?
Alors, dans l'histoire, elle est obligée de mentir à sa mère parce que sa mère ne veut pas qu'elle pratique le traîneau. Voilà, tout simplement parce que son père, à elle, est un musher professionnel qui passe son temps en expédition et que sa mère, finalement, elle garde
elle
un petit
seule,
peu sa
voilà.
fille
voilà.
près
elle
d'elle.
Est seule et...
Elle a un peu peur qu'elle attrape le virus et qu'elle parte à son tour.
On peut considérer que vos romans sont censés toucher un public de quel âge?
On va dire 7 ans bon lecteur et sinon c'est plus pour les 8-10.
Ce qui m'intéresse de savoir... On sait qu'aujourd'hui, quand même, la littérature jeunesse est assez surveillée, que les éditeurs font très attention aux représentations d'un grand nombre d'éléments. Vous connaissez sans doute Didier Dufresne, qui est un grand auteur au Père Castor, mais chez d'autres, et qui habite dans Lyon, et que je connais fort bien. Et Didier Dufresne, qui a, je sais pas, je crois, plus 120 livres à son actif chez des éditeurs jeunesse. Didier Dufresne me disait que finalement, lui qui est aujourd'hui à la retraite, hein, qui est un monsieur de 70 ans, me dit on a connu une période de grande liberté où l'on pouvait, par exemple, parler de cirque, on pouvait mettre en scène un certain nombre de choses. Or, aujourd'hui, par exemple, des tas de maisons d'édition, pour des raisons d'éthique ou de bien-pensance, les maisons d'édition disent aux auteurs « Ah oui, mais ça, ça va pas. » Ou alors « Votre personnage, il est trop genré. » Est-ce que vous avez des consignes, des recommandations, ou est-ce que parfois votre texte a dû subir des modifications de manière à répondre aux attentes de l'éditeur pour des exigences morales, éthiques, religieuses ou autres ?
Alors, pour ce livre-là, pas du tout. Vraiment, on m'a laissé une grande liberté. Après, effectivement, moi, de moi-même, j'avais aussi quelque chose d'assez lisse et adapté à tout le monde parce que, comme je travaillais à ce moment-là dans l'édition jeunesse, je savais aussi un petit peu ce qui passait pas. À côté de ça, j'ai écrit un autre livre dernièrement où mon éditeur m'a dit « Oula, attention, là, l'héroïne dit « J'ai l'impression de devenir folle. » Folle, c'est connoté quand même. Ça peut être mal perçu, on va changer par autre chose. » Alors que pour moi, c'était vraiment pas impactant. J'ai l'impression de devenir folle, ça me paraissait tellement courant comme expression. Oui. Mais là, ça ne passait pas. Donc effectivement, ça dépend des maisons d'édition.
Mais alors, dans cette situation-là, est-ce que vous maintenez en disant « Mais je ne comprends pas » ou alors est-ce que vous consentez à obéir aux exigences de la maison d'édition ?
Alors, je me dispute avec mon éditrice. Je lui dis comme quoi moi, je ne comprends pas et que voilà. J'écoute ses arguments et après, ça dépend. Là, dans ce cas-là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. On a changé parce qu'il y avait d'autres termes qui pouvaient correspondre aussi. Mais il y a certaines fois où, effectivement, non, là, je ne suis pas d'accord. C'est un terme courant, c'est un terme, voilà, et je le laisse. Ça dépend vraiment, c'est circonstanciel.
Imaginons que, par exemple, parce que Didier Dufresne a eu des exemples de livres qui ont été interdits. Des livres pourtant tout simples, hein, d'une petite fille qui était malade et il n'en connaît pas la raison, où le maire de Venise a interdit ce livre dans les librairies de sa ville. Supposons que des défenseurs de la condition animale trouvent scandaleux que des jeunes gens puissent trouver du plaisir finalement exploiter. C'est toujours le problème de l'exploitation des animaux. Alors, je regarde Gérard parce que je sais que Gérard, dans la pensée du moineau, dit que l'on devrait aujourd'hui terriblement modifier notre rapport aux animaux. Je ne doute pas, chère Lucille, que vous aimiez les animaux, mais admettons qu'on vous fasse un mauvais procès outrancier auprès de la maison d'édition. C'est arrivé ?
C'est arrivé, c'est arrivé.
Vous pouvez nous en parler ?
Oui, en salon, une dame qui vient me voir et qui me dit quoi, elle a lu mon livre, qu'elle est scandalisée, qu'on exploite comme ça les animaux et que c'est outrageant. Et alors moi, sur le coup, j'ai été vraiment très mal parce que je me suis dit, mince, je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis vraiment pas posé la question. Et du coup, une fois que j'ai eu terminé ce salon, j'ai contacté des éleveurs, notamment de traîneaux à chiens, j'ai contacté des mûcheurs, je me suis renseignée, j'ai été voir les conditions dans lesquelles ils étaient pour voir effectivement est-ce que oui ou non. Et je pense justement faire un livre dans lequel il y aurait à un moment une exploitation où les chiens seraient moins bien traités qu'à l'Arctique pour montrer qu'il y a parfois un revers de la médaille et pour sensibiliser un petit peu les gens. Mais sur le coup, oui, j'étais vraiment désarmée, je ne savais pas quoi dire parce que dans ma tête, mes personnages, ils adorent les chiens, ils les traitent bien. Mais effectivement, est-ce que c'est le message qui était véhiculé ? Est-ce que derrière, ça, c'est pas une exploitation animale ? Est-ce que derrière, finalement, juste pour un besoin ludique ? Parce qu'à l'époque, on utilisait les chiens de traîneau pour un besoin... c'était une nécessité. Mmh. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de plaisir. C'est beaucoup, c'est un divertissement. Et donc, est-ce que c'était pas mal de se servir des chiens comme ça ? En réalité, j'ai eu beaucoup de mal. Et je pense que sur le sujet, les avis sont vraiment très, très divergents.
Alors ici, les chiens de traîneau sont des personnages secondaires. Ils ne pensent pas. Hein, vous ne vous mettez pas dans leur tête. Ils ne parlent pas. Ce sont vraiment les jeunes gens. Alors avec des petites intrigues, des petits heurts entre eux, mais aussi l'envie de la gagne.
Ah, c'est sûr que le côté compétition, il est très présent, notamment dans le tome 2 où il y a une course. Après, oui, c'est aussi une réalité, effectivement, actuellement. Les personnes qui font réellement du chien de traîneau, c'est pour des expéditions et c'est pour des courses.
Alors vos textes sont mis en valeur par des illustrations de Marie-Gaëlle Tramon que vous ne connaissez pas.
Pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré.
Donc en fin de compte, votre texte est illustré. L'éditeur vous demande tout de même votre accord, votre avis sur les illustrations.
Là encore, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai envoyé le texte tel quel. J'avais vraiment aucune illustration, rien du tout. Je l'ai envoyé, l'éditeur m'a recontacté en me disant « Ça nous a plu, si ça vous intéresse toujours d'être chez nous, voilà, rappelez-moi qu'on en parle. Voilà. » On a fait un premier travail sur le texte, de correction, de changer quelques formules, de rajouter une partie sous-intrigue parce que c'était pas forcément bien exploité, etc. Et après, un jour, elle m'a contactée, mon éditrice, elle me dit « Bon, on a trouvé une illustratrice. » Je t'envoie des exemples de ce qu'elle fait, mais à aucun moment on m'a demandé est-ce que ça te convient, est-ce que... Et donc sur le coup, bah, je me suis dit ok, de toute façon, il n'y avait aucun dessin de chien dans ce qu'on m'a envoyé, rien du tout, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Et on ne m'a même pas donné demandé mon avis pour les scènes qui allaient être illustrées ou quoi que ce soit, c'était vraiment on lui envoie le texte, elle choisit les scènes qui lui plaisent, elle les illustre. Et j'étais terriblement soulagée en recevant le livre final parce que je trouve vraiment ces illustrations très très belles, alors que c'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup.
Donc trois livres à votre actif, donc dans la série La Petite Meute, donc Mystère à l'Arctique, Le Secret d'Anna, et alors le tout dernier que je n'ai pas là devant moi et qui a pour titre
je crois que c'est Nuit de Tempête sur le Club.
Nuit de Tempête sur le Club, donc le fameux club qui enseigne le maniement des traits pour guider, parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, parce que à un moment il y a une scène assez amusante mais qui pourrait faire perdre l'équipe, c'est que les chiens de traîneau, pourtant très appliqués, qui tirent et qui foncent droit au but, tout d'un coup ont perçu, alors visuellement et olfactivement parlant, un lièvre, et alors il faut savoir tenir ces chiens.
Alors, depuis que j'ai écrit les livres, j'ai réellement fait du chien de traîneau. Je peux vous dire que déjà, c'est terriblement physique.
Et c'est pour ça, ces petits jeunes gens, est-ce qu'ils ont suffisamment de muscles pour...
Ils sont plusieurs sur le traîneau, généralement. Non. Et puis, ils ont moins de chiens. Nous, on avait beaucoup de chiens, et c'est vrai que c'était très fatigant. Il faut pousser vraiment le traîneau dans les montées, il faut aider. Et moi, il m'est arrivé donc deux mésaventures. La première, c'est qu'on a croisé des caribous. Et les chiens, ils partent au quart de tour.
Ah bah vous êtes allé dans le Grand Nord ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, je dis des caribous, c'est pas des caribous, c'est parce que j'ai mis des caribous dans le livre. C'est des chevreuils,
on dit. Ah, des chevreuils, d'accord.
Les chiens, ils partent tout de suite. Voilà. On a aussi croisé des loups, et là, les chiens, ils ont peur. Ils ont vraiment peur des loups. Donc notre musher qui était en tête, il a accroché tous les traîneaux ensemble pour que tout le monde suive ses chiens à lui, et il a tracé pour s'éloigner. Voilà. Et j'ai aussi fini dans un ravin. Parce que je regardais tellement, j'avais tellement peur de tomber que bah forcément le traîneau il est parti. J'appuyais trop de ce côté-là. Je suis partie, j'ai entraîné tous les chiens avec moi et on a dévalé sur 15 mètres.
Et alors, ça je ne le savais pas, j'avoue. Mais c'est qu'en en fin de compte, pour freiner ou arrêter un traîneau, le musher a une ancre qu'il jette. Cette ancre se plante dans la neige et ça permet de freiner les chiens. Parce que...
C'est un dernier recours, normalement il y a quand même un frein. Et en fait il y a un tapis. On a les pieds sur les patins et au milieu il y a un tapis, on appuie sur le tapis pour freiner et on ordonne aux chiens de ralentir, mais effectivement en dernier recours il y a cette ancre qu'on peut planter, notamment on la met souvent à l'arrêt pour empêcher les chiens de repartir. Effectivement moi je sais que mes personnages ils l'utilisent effectivement pour essayer de se sortir de certaines situations dans le livre.
Écoutez, merci Lucille Baratelli. Donc La Petite Meute, Le Secret d'Anna, des beaux petits cadeaux en prévision de Noël, et puis Mystère à l'Arctique de Lucille Baratelli avec des illustrations de Marie-Gaëlle Tramon, et vous pouvez applaudir Lucille. À l'instant, Lucille Baratelli, enregistrée lors de la table ronde du Festival du Livre de Blanzy. Lucille Baratelli, auteur jeunesse aux éditions du Père Castor, avec La Petite Meute, Mystère à l'Arctique. À vous de retrouver les aventures, non seulement des chiens de traîneau, mais de Théo, Lucie et Anna,
avec des illustrations de Marie-Gaëlle Tramon. C'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous vous proposons aujourd'hui une table ronde des écrivains Festival du Livre de Blanzy, enregistrée le 15 octobre dernier. Après la virgule musicale que nous allons vous proposer, nous pénétrerons dans les corridors du 36 quai des Orfèvres. Nous nous retrouverons à Paris un matin de décembre où le corps d'une fillette est découvert quai de la Tournelle. L'auteur s'appelle Isabelle Rousseau et nous en parlons juste après l'intermède musical que nous vous proposons. Merci de nous rejoindre et bonne fin de matinée sur Radion.
It cannot keep me away from the sound, holding my breath, 'cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't sing on the skin, facing my desire, caught me by surprise. Like two falling autos, the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be, baby.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion pour votre rendez-vous culturel et littéraire. Sans tarder, nous écoutons la suite de la table ronde des auteurs enregistrée lors du Festival du Livre de Blanzy. C'était le 15 octobre dernier. Et je rappelle que Blanzy, c'est en Saône-et-Loire.
Gérard, je vais vous faire patienter un peu.
Oui.
Et je vais me tourner cette fois-ci vers Isabelle Rousseau avec ce roman policier sempiternous. Isabelle Rousseau, je dispose de quelques éléments sur la quatrième de couverture. Alors, vous êtes née en Bourgogne. Dans quel département de la Bourgogne êtes-vous née ?
En Saône-et-Loire, au Creusot.
Au Creusot. Alors, très passionnée par le théâtre.
Oui.
En 1997, votre pièce « Jamais 203 » fait l'ouverture du Festival de théâtre amateur du Creusot.
Oui.
Et va être également jouée quelques années plus tard à Orléans.
Exact.
C'est à partir de 2002, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, que vous vous tournez vers l'écriture de romans. D'abord, pourquoi le roman policier ?
Alors, policier particulièrement, parce que j'adore le roman policier, mais avant celui-ci, j'en ai écrit deux autres qui sont des romans de fiction. Et policier parce que j'avais envie de mener l'enquête, en fait, parce que c'est un de mes grands regrets de vie, de ne pas avoir été flic. C'est un grand regret. Et je me dis, tu ne peux pas être dans la police en réel. Tu vas essayer de mener toi-même ton enquête au travers d'un roman. Donc c'est pour ça que j'ai commencé d'écrire Sempiternum. Et au départ, il devait y avoir qu'un seul roman. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais celui-ci, j'imaginais une suite. Et donc, j'ai décidé d'en faire une tétralogie, c'est-à-dire une suite de 4 livres. Et l'avantage, c'est que ce premier roman, c'est une enquête. À la fin du roman, vous connaissez la finalité. Alors, je ne vous dirai pas quelle est cette finalité, bien évidemment. Vous connaissez la finalité de ce roman, mais en même temps, vous entrez dans le second tome. Et vous ne restez pas sur votre fin, en fait. C'est ça qui est... Je ne voulais pas le faire parce que je n'aime pas qu'on me le fasse en tant que lectrice. Et donc, je ne voulais pas le faire à mes lecteurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose... d'extrêmement intéressant à écrire parce que ça demande énormément de documentation, un peu comme pour les chiens de traîneau. J'avoue que je ne connaissais pas grand-chose aux enquêtes criminelles avant ça.
Alors, documentation, certes, mais vous avez eu la chance d'aller dans un lieu que vous utilisez au cœur du roman, c'est-à-dire le fameux 36 Quai des Orfèvres. Vous y êtes allé, vous avez... Vous êtes rentré dans le couloir du quai des 36.
Oui, j'ai eu cette chance-là parce que en faisant des recherches, j'ai pris contact avec une jeune femme qui est officier de police, qui travaillait à l'époque encore au 36 quai des Orfèvres. Elle était à la brigade des stupes, qui était dans le même immeuble que la brigade criminelle, située au 36 quai des Orfèvres, donc. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu veux visiter les locaux ? Alors, demander à un malade s'il veut la santé, hein ? Ah ben, j'ai dit, oui, je veux, bon Dieu. Et donc, elle m'a invitée et je suis rentrée par la porte, tout bêtement, hein, mais la même porte qu'ont emprunté Mérine, Guy Georges. Et j'ai monté le fameux escalier A, tout caoutchouté. Et je pense que je suis une des rares personnes dans l'histoire du 36 à avoir... franchi ce seuil et monté cet escalier avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'était les 5 dernières minutes de Bourrel. C'est avec Bourrel, c'était toutes les séries policières que j'avais regardées quand j'étais gamine. Et je me suis dit, là ma fille, tu visites un monument historique, t'es dans un moment de ta vie que tu ne revivras plus jamais. J'ai pas pu prendre de photographie parce que c'est quand même un lieu qui était extrêmement sécurisé déjà à l'époque. Et donc je les garde là dans ma tête, mais j'avoue que j'aurais pas été mécontente d'avoir une petite photo dans l'escalier. J'avoue, je suis désolée, mais c'est vrai.
Alors je l'ai dit, votre héroïne, donc c'est un...
Capitaine.
C'est un capitaine, oui. Voilà. C'est un capitaine Sophie Monge. Alors, le commissaire, c'est Théophile Costas. Donc, Sophie Monge qui va se retrouver enquêtrice par rapport au cadavre de ces fillettes retrouvées sur les quais de la Seine à Paris. Alors, premier élément qui m'intéresse, comment faites-vous pour trouver les noms de vos personnages? Est-ce que, comme Balzac, vous allez vous promener dans les cimetières et relever des noms sur les tombes des sépultures?
Alors, je ne vais pas jusque-là. Moi, j'ai juste un dictionnaire des prénoms. Déjà, ça aide. Non, tout simplement...
Et sur les patronymes, par exemple, votre commissaire qui s'appelle Théophile Costas. Pardonnez-moi, le médecin légiste d'origine italienne, docteur Gabriella Andolini.
Vous me demandez tous mes secrets, je ne sais pas. Hein.
Alors ne les révélez pas.
Non.
Ne dites rien.
Non, mais je plaisante. Non, mais c'est, on peut en parler. Hein, on peut en parler. Sophie Monge. Pourquoi Sophie? Parce que théoriquement, j'aurais dû m'appeler Sophie. C'était le prénom que ma maman avait choisi en premier pour moi. Et lorsqu'elle a dit à ma grand-mère, je vais l'appeler Sophie, ma grand-mère a dit, non, ça va être comme les malheurs de Sophie, elle va être malheureuse toute sa vie, cette petite, il faut changer. Donc, elle s'est rapatriée sur Isabelle, elle a bien fait, moi je trouve, enfin bon. Monge, c'est parce que lorsque j'étais gamine, j'ai vu un film avec Patrick Bruel, qui s'appelait La Maison Assassinée, sauf erreur de ma part, dans lequel le personnage s'appelle Monge. Et j'avais beaucoup aimé ce film. En ce qui concerne le médecin légiste, donc si les gens sont cynophiles, le nom de famille de Gabriella est tout simplement le nom de famille de Vito Corleone dans Le Parrain.
Andolini,
oui. Voilà. Mais son vrai nom de famille, son vrai patronyme, c'est Andolini. Et il s'appelle Corleone parce que lorsqu'il arrive aux États-Unis, il ne sait pas parler anglais et on lui demande d'où tu viens. Et sur sa petite plaque, parce qu'il est arrivé à Ellis Island, on voit la ville de Corleone. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Vito Corleone. Et j'adore Le Parrain, j'adore la trilogie. Et comme je voulais faire un personnage italien, je me suis dit, bon, ça va être un petit clin d'œil pour rendre hommage à la trilogie du Parrain.
Il y a un autre italien dans les policiers, c'est Raffaele Bianchetti.
Voilà, alors... Raffaele, c'est le beau gosse. C'est le beau gosse, mesdames. C'est le beau gosse de l'équipe. Donc après, c'est vrai que pour certains noms ou certains prénoms, tout simplement, j'ai un dictionnaire des prénoms. Parce que j'aime beaucoup les prénoms originaux, les prénoms anciens. Et à côté, pour les noms de famille, ben c'est bête à dire, mais j'ai pris un vieil annuaire. Je tourne les pages, puis je fais plouc. Puis je regarde si ça me plaît,
oui.
Tout simplement.
Bon, alors concernant les victimes, nous l'avons dit, ce sont des petites jeunes filles, 10 ans.
Ce sont des enfants.
Ce sont des enfants, hein, 10 ans, 12 ans. Et on ne va pas dire de quelle manière elles sont tuées, on ne le révèle pas. Mais effectivement, Sophie Monge s'intéresse à la manière dont ces jeunes filles sont kidnappées, alors entraînées. À la sortie de l'école, voilà. Ou du cours de gymnastique.
Disons qu'elle se pose beaucoup de questions. Voilà, elle se pose beaucoup de questions.
Elles suivent leur ravisseur, généralement,
sans crainte.
Sans crainte, voilà.
Sans crainte. Et donc, c'est ce qui étonne Sophie,
c'est ce qui étonne,
entre autres choses.
Évidemment, on utilise la vidéosurveillance. Et puis, l'enquête suit son cours. Et on ne vous dira pas, bien évidemment, de quoi il s'agit. En revanche... Il y a une scène, alors je trouve que vous y passez beaucoup de temps, mais c'est très original, accouchée à l'Institut médico-légal.
Oui.
Sur une table où l'on pratique les autopsies. Alors bon.
Elle accouche, là, une jeune femme qui.
Donc de la police qui.
Voilà,
qui
c'est
se trouve
une
là pour des
c'est
raisons
une
un peu professionnelles.
Voilà, c'est voilà. Une technicienne de labo qui est enceinte et. Ça n'est pas prévu, hein, parce que vous imaginez bien que vous ne prévoyez pas d'accoucher en plein milieu de l'IML. Et en fait, la vie fait que Elle fait ce qu'on appelle un accouchement à boulet de canon. Elle n'a pas le temps de se rendre à l'hôpital et elle est accouchée par le médecin légiste et Sophie en plein milieu de l'IML. Alors pas sur une table d'autopsie, mais sur le carrelage. Donc c'est vrai que c'est un peu alors cocasse, c'est pas le terme que j'emprunterais, mais c'est inhabituel déjà dans un premier temps. Et je trouvais que justement la localisation de cet événement était bien choisie, parce que c'est vrai que c'est un endroit où malheureusement ne règne que la mort. Et là, j'avais l'occasion d'y donner la vie. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, que c'était un bon endroit. D'autres personnes m'ont dit « bof, ben, j'ai dit « pourquoi pas, après tout ». Et c'est vrai que ça a été une scène très, très intéressante à écrire, très drôle aussi. Je riais toute seule d'ailleurs. Mais j'essayais de me mettre vraiment dans la peau des personnages, bien que n'ayant jamais eu d'enfant, ça m'était un petit peu compliqué. Donc j'avais demandé à ma tante, qui a fait sa carrière à la maternité, un petit peu comment ça se passait. Donc elle m'avait donné 2-3 conseils, 2-3 anecdotes. Et donc j'ai aggloméré tout ça et j'en ai sorti une scène qui, moi, me plaît beaucoup. C'est l'essentiel.
C'est vrai qu'elle est très originale, cette scène de l'accouchement à l'Institut médico-légal. C'est dans Sempiternum, le tome 1.
Tome 1, oui.
Isabelle Rousseau, aux éditions Le Bélier Rouge. Alors là, Isabelle, à votre droite, il y a Gérard Fesch. Vous pouvez l'applaudir, Isabelle. Merci.
Nous allons marquer un nouvel intermède musical à bord de votre wagon livre. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à midi et que nous vous proposons aujourd'hui la table ronde des auteurs enregistrés lors du Festival du Livre de Blanzy en Saône-et-Loire. C'était le dimanche 15 octobre dernier. Vous avez pu entendre il y a quelques minutes Isabelle Rousseau. Et juste après l'intermède musical que nous allons vous proposer, vous entendrez un autre écrivain invité au Salon du Livre de Blanzy. Il s'agit de Gérard Fesch. Gérard Fesch qui raconte dans un livre paru aux éditions Ballant et qui a pour titre « Fils d'assassin, fils de saint » avec une préface de maître Éric Dupont-Moretti. Gérard Fesch est un enfant abandonné par sa mère au bout de 16 jours. Enfant de l'assistance publique, il nous expliquera comment, à l'âge de 40 ans, il découvre qu'il est le fils de Jacques Fesch, condamné pour un braquage au cours duquel, en février 1954, il tua un policier. Il fut jugé aux assises et guillotiné en 1957. Gérard Fesch nous racontera également la conversion religieuse de son père en prison, qui lui vaut d'ailleurs encore aujourd'hui une procédure de béatification initiée il y a plus de 20 ans par Monseigneur Lustiger. Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio. On se retrouve dans quelques minutes, le temps d'une petite virgule musicale. She was from another time.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour le 15 octobre dernier lors de l'enregistrement en public de la table ronde des écrivains dans le cadre du Festival du Livre de Blanzy. Nous allons cette fois-ci entendre Gérard Fesch qui nous raconte son parcours et le combat judiciaire qu'il a mené pour recouvrer le nom de son père. Son père dont il découvre l'existence à l'âge de 40 ans. En effet, Jacques Fesch, le père de l'invité que vous allez entendre dans notre table ronde, un fils de bonne famille, a commis un braquage en 1954 et dans sa cavale, il a tué un policier. Alors, il y a eu un procès retentissant, un peu bâclé, et Jacques Fesch est condamné à mort et sera guillotiné en 1957. Mais avant de nous faire découvrir la grande affaire qui a bouleversé toute l'existence de Gérard Fesch, celui-ci revient sur les différentes familles d'accueil où il a grandi, plutôt mal que bien, même si effectivement c'est la musique qui a sauvé sa vie. Je vous propose tout de suite de découvrir la vie et le parcours de Gérard Fesch, enregistré le 15 octobre dernier lors de la table ronde des auteurs du Festival du Livre de Blanzy.
Je n'étais pas du tout bien dans cette famille d'accueil. Bon, de l'assistance publique, on nous dit, voilà, tu es de l'assistance publique, tu ne sais même pas d'où tu viens. Enfin, c'est bon, c'est compliqué. Puis vivre dans cette famille, ce n'est pas évident. Et à l'âge de 8 ans, j'ai vu des gens jouer de la trompette. Et j'ai eu envie vraiment de faire de la musique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était capital pour moi. Et dès l'instant où j'ai appris à jouer de la trompette, c'était libérateur. Ça m'a permis d'oublier un petit peu tous les problèmes dans cette famille d'accueil. Et ce n'est pas que j'étais doué, mais je me suis mis à jouer, à m'entraîner régulièrement. À l'âge de 15 ans, j'ai fait partie d'un orchestre. J'ai commencé à gagner de l'argent. Voilà. Donc c'était une liberté, c'était une manière de sortir de cette famille d'accueil. Voilà, à 17 ans, c'était plus possible de rester là où j'étais. Donc j'ai pris le train, je suis parti à Paris avec ma guitare et ma trompette. Et puis rapidement, bon, avec des périodes un peu difficiles, hein, passé 6 mois à dormir dehors dans la rue. Mais ensuite, on fait des rencontres et de fil en aiguille, voilà, j'ai eu la chance d'accompagner certains artistes de la chanson française. Enfin voilà, la musique a été, je peux dire pour moi, ce qui m'a sauvé. Sans la musique, je ne sais pas comment ça serait passé.
Gérard Fesch, est-ce que vous avez accompagné à la trompette l'accordéoniste Valéry Giscard d'Estaing?
Oui, exactement.
Comment, oui. À quelle occasion?
On faisait un concert dans un hôtel à Paris, et il était là, il était invité tout simplement. Il y avait d'autres personnalités, et à un moment donné, donc, on lui a demandé, ce qu'il voulait jouer de l'accordéon. Enfin, pas moi, d'autres personnes lui ont demandé, et il est monté sur scène. Alors c'était un petit peu, l'anecdote. Donc il prend son accordéon, et nous on savait pas ce qu'il allait jouer. On l'accompagnait. Et il nous dit, il se tourne et il nous dit Anchi. Alors Anchi, on ne comprenait pas trop. Anchi, Anchi. Et en fait, il fallait comprendre, on joue en si. Voilà. Ce qu'il avait un petit peu.
Il n'était pas encore président de la République?
Non, il était, oui. C'était plus président. Il n'était plus président de la République.
Ah oui, donc c'est après 81.
C'est après. Voilà, c'était après. Ouais.
81, l'année est la seule fois où vous avez voté.
Exactement.
Et vous n'avez plus jamais voté
non,
depuis 80 ans.
Je n'ai plus voté et je n'ai pas l'intention de voter pour l'instant. Voilà.
Alors, en 1994, des amies musiciennes vous mettent entre les mains un article de l'hebdomadaire L'Express. Donc c'est le 14 avril 1994, comme disent nos voisins et amis suisses. Cet article est signé de Michel Legris. Et là, que découvrez-vous à travers cet article de presse?
Voilà. Donc j'ai passé 40 ans à chercher mes origines. Je ne pouvais strictement rien savoir. Donc je voulais savoir qui était, d'où je venais. Enfin, c'est important, mais compliqué. Et en 1994, on fait un gala du côté de Gap. Et à la fin de la soirée, la chanteuse de l'orchestre me glisse une enveloppe et me dit... Voilà, un article de presse, lis cet article. Bon, je prends l'article, je vois L'Express, je vois la photo de l'article qui me demande de lire, je vois le cardinal Lustiger à Philadelphie en train de parler des jeunesses chrétiennes de France, et on parle de Jacques Fesch que l'on veut béatifier. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on me donne ça? Je vois pas trop le rapport. Donc je range l'article de mon cartable et puis je me dis bon, ça m'intéresse pas, enfin bon voilà, je vais donner ça à mon fils pour le directeur de son école, ça peut l'intéresser, il était dans une école privée, enfin bref. Et puis quelques heures après, je me dis mais comment se fait-il qu'on m'a demandé d'insister vraiment? Et là je lis l'article jusqu'au bout et je vois à la fin de l'article que l'on dit que Jacques Fesch a eu un enfant qui se prénomme Gérard d'une demoiselle Thérèse. Voilà. À partir de là, je sais que... Bon, mon prénom, je le connais. Je suis de l'assistance publique. Et je savais, sans vraiment le savoir, mais j'avais entendu que ma mère s'appelait Thérèse. Donc, j'ai la question que je me suis posée. Est-ce que je peux être le fils de cet homme? Alors, il a été incarcéré le 25 février 1954. Moi, je suis né le 28 octobre 1954. Je fais le calcul... Il y a un battement de 15 jours, c'est possible. À partir de là, je me pose quand même de sérieuses questions. Et puis, dès le lendemain, j'appelle le journaliste de L'Express. Je dis, voilà, j'ai découvert un article, je m'interroge. Je parlais d'un Gérard, je m'appelle Gérard, je suis né en 54. Et là, il me dit, bah, écoutez, je vais vous poser une question. Dites-moi si vous vous êtes appelé Trogneau, avec un T, au début de votre existence. Alors je lui dis oui, jusqu'à l'âge de 10 ans, je me suis appelé Trogneau et ensuite on m'a changé mon nom. Ah, il me dit, bah, si c'est ça, vous êtes bien le fils de Jacques Fesch, puisque j'ai entre les mains la déposition qu'a fait une certaine Thérèse Trogneau, donc ma mère, au procès aux assises. Et là, à partir de là, je sais que je suis le fils de Jacques Fesch.
Alors effectivement, imaginez découvrir à 40 ans qu'on est... Alors, l'identité de ses parents, de surcroît... Et un père assassin guillotiné.
Qui est plus jeune que soi, quand on le découvre.
Oui, parce que Jacques Fesch, le père de Gérard, donc fait ce braquage raté le 25 février 1954. Gérard, vous naissez en octobre 1954. Oui. Jacques Fesch, dans sa fuite, après ce braquage raté, Jacques Fesch, donc, je vous l'ai dit, sans intention de viser le policier, disons... poursuivi par des policiers et par un certain nombre de Parisiens qui voulaient arrêter cet homme. Jacques Fesch tire je dirais un peu au hasard.
Au jugé.
Au jugé. Mmh. Et cette balle tue un policier de 35 ans qui est le papa, à l'époque, d'une petite fille de 8 ans. Petite fille qui plus tard deviendra avocate. Jacques Fesch est arrêté, emprisonné à la Santé, 3 ans d'emprisonnement. Et Gérard, en fait, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que votre père a connu une rédemption en prison. C'est la raison pour laquelle Monseigneur Lustiger avait lancé une procédure de béatification pour Jacques Fesch, parce que votre père rencontre Dieu en prison,
oui,
à la Santé, durant 3 ans, et il écrit. Il y a un journal spirituel. La prison...
Oui, c'est ça. Oui, pendant son temps d'incarcération, donc après un procès... donc il est incarcéré en février 54. Son procès a eu lieu en avril 57. Et donc il a compris. Il a compris, cet homme, qu'il devait servir d'exemple. Les conditions politiques à l'époque, 1954, il y a quand même l'appel de l'abbé Pierre. Lui, c'est un fils de bonne famille, de bourgeois, donc il tue un policier pour faire un hold-up, pour partir, à acheter un bateau pour aller faire le tour du monde. Bon, voilà. Donc, on a voulu marquer l'événement. Il fallait absolument qu'il serve d'exemple. Et ça, il l'a parfaitement compris. Avec, en plus, un procès aux assises qui est complètement truqué. C'est ça, il le sait aussi. Et il accepte sa mort. Il accepte de payer. Donc là, il se met à écrire, une forme de rédemption. Il écrit des livres qui touchent beaucoup, qui touchent beaucoup aujourd'hui, encore aujourd'hui, énormément dans le monde entier. Et puis à l'époque, donc l'Église de France, cardinal Lustiger, fait un exemple de ce modèle de rédemption et propose donc sa béatification. Voilà. Mais il accepte, c'est ça qui était assez fort quand même. Il accepte sa condamnation à mort. Il sait qu'il doit payer. Il écrit par exemple que chaque goutte de mon sang sert à empêcher un autre crime. Voilà. Donc, mais bon, il avait peut-être pas non plus d'autre solution que de se tourner vers Dieu pour accepter cette mort horrible.
Après 3 ans d'emprisonnement, ouais, donc Jacques Fesch est guillotiné le 1er octobre 1957. Ce qui est très émouvant aussi, c'est toute l'enquête que vous menez. Vous découvrez, vous rencontrez votre demi-sœur, hein, Véronique.
Ouais.
Véronique Fesch, qui, alors au départ, vous accueille comme le demi-frère, voilà. Et puis par la suite, non, elle n'a pas envie que vous portiez le nom de Fesch, d'où le marathon judiciaire, tous les avocats que vous avez rencontrés, Gilbert Collard, Roland Dumas, Dupont-Moretti. Enfin là, cette fois-ci, vous vous battez pour la réhabilitation de votre père par rapport à l'action criminelle.
C'est ça. Donc on pourrait très bien, le procès de Jacques Fesch pourrait être repris. On pourrait demander une révision, mais ce n'est pas possible. On ne le fera pas de toute façon et il n'est plus là, ça ne sert à plus rien. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que en dehors de ce côté béatification, qui est quand même assez exceptionnel, ce modèle de rédemption, on entend bien, il y a aussi tout le côté procès. Moi, quand j'ai découvert comment ce procès aux assises s'est passé, c'est assez... assez épouvantable. On va jusqu'à falsifier le vote des jurés, qui sont des jurés, c'est immuable, on touche pas, sinon ça sert à plus rien. Donc par exemple sur 6 questions sur des circonstances aggravantes qui sont déterminantes de la peine capitale, donc les jurés répondent par non, non, 6 fois. Le président de la cour d'assises raye les non, les remplace par des oui, authentifie. Les documents c'est clair, net et précis. On ne dit jamais que le policier tire 5 reprises sur Jacques Fesch avant que Jacques Fesch ne riposte avec son revolver dans la poche. Tout ça, ce n'est pas dit non plus. Donc, c'est plus que tronqué. Hein. Donc, il y a cet élément-là qui fait qu'on peut peut-être aussi demander une réhabilitation. Il y a aussi la démarche du président de la République à l'époque, hein, parce que la grâce est demandée, et puis là, le président de la République voudrait bien le grâcer, il y écrit, je j'aimerais beaucoup gracier Jacques Fesch, mais si je le fais, je mets en danger la vie d'autres agents de police. Mais par l'intermédiaire de son avocat, dites bien à votre client qu'il a toute mon estime pour l'homme qu'il est devenu. Donc c'est quand même pas banal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà ça, pareil, le soir du procès, la veille du verdict, le président de la cour d'assises déjeune avec l'avocat général. C'est pas non plus, ça se fait pas ça. Et le fils du président de la cour d'assises est défendu, pour des histoires de port d'armes et compagnie, est défendu par l'avocat général. Donc ça fait beaucoup de choses quand même. Voilà. Mais on ne peut pas demander, on ne peut pas trop s'appuyer sur ce côté du procès, voilà, pour la réhabilitation, ça en fait partie, mais c'est plus sur le côté de la rédemption, ce qu'est devenu cet homme. Voilà.
Merci Jacques Fesch. Je préfère avoir un père guillotiné que pas de père du tout. Fils d'assassin, fils de saint, de Gérard Fesch, aux éditions Ballant. Et puis... Que l'histoire familiale ne vienne pas faire trop d'ombre à la pensée du moineau, ce petit moineau que Gérard a souvent vu sur le rebord de sa fenêtre à l'hôpital quand il affronte le cancer ou dans les jours plus joyeux. Le petit moineau, toujours petit oiseau réconfortant. Et Gérard Fesch nous livre ses réflexions, pas piquer des vers parfois assez acides. Voilà. Merci à vous le public. Vous pouvez applaudir nos trois auteurs. J'ai été un peu long avec Gérard, je m'en excuse, mais c'est un peu difficile de faire très très court sur une affaire très très compliquée. Je rappelle les références des ouvrages de nos trois auteurs que je salue et remercie une fois de plus. Lucille Baratelli, donc La Petite Meute chez Castor Roman. Sempiternum d'Isabelle Rousseau, c'est aux éditions Le Bélier Rouge. Et puis les livres de Gérard Fesch, Fils d'assassin, fils de saint, aux éditions Ballant, et La pensée du moineau chez Bouquelis. Bonne fin d'après-midi, merci de votre écoute attentive.
Vous avez donc pu entendre aujourd'hui la deuxième et dernière table ronde enregistrée en public le 15 octobre dernier lors du Festival du Livre de Blanzy. Vous retrouvez les références et les titres des ouvrages sur le site d'archives de l'émission, sur internet, www.yannickpetit.fr. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous annoncer le sommaire de l'émission de samedi prochain, 25 novembre, toujours à 11h sur Radion. Samedi prochain, j'aurai le plaisir de vous proposer un entretien avec Raphaël Nedilko, qui a été l'invité d'honneur du Festival du Livre de Blanzy. Raphaël Nedilko est major de police, père de trois enfants. Il est actuellement enquêteur au commissariat de Chalon-sur-Saône. Il a passé 7 ans au 36 quai des Orfèvres, où il a tout appris, et il a également passé 8 ans à la PJ de Dijon. Et nous aurons l'occasion avec lui de revenir sur l'univers des malfrats, de la police, à travers le livre qu'il a fait paraître il y a quelques mois chez Studio Fact et qui a pour titre « L'obstiné », coécrit avec la journaliste Catherine Siguret. L'occasion de revenir avec Raphaël Nedilko sur deux cold cases qu'il a résolu, les affaires Maillerie et Blétrie, deux des disparus de la CIS. En tout cas, c'est avec un enquêteur minutieux et opiniâtre que nous nous entretiendrons samedi prochain dans votre wagon livre sur Radiol. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous saluer. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à samedi prochain.